VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, au sommaire de cette édition du 18 octobre 2017. Coup de feu à Lomé près du domicile du chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre. Violence meurtrière dans le sud-est de la Centrafrique selon la MINUSCA. RDC, affrontement dans le Nord Kivu entre l'armée et les rebelles ADF. Au Kenya, l'opposition appelle à des manifestations de masse le jour de la présidentielle. La police ougandaise interdit les manifestations contre un projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. Les forces syriennes ratissent la ville de Raqqa, reprise aux djihadistes hier. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Togo, coup de feu et tir de grenades lacrymogènes en milieu d'après-midi à Lomé, près du domicile du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Le point avec notre correspondante Kay Lawson.
Les gaz lacrymogènes ont embaumé l'atmosphère de Lomé toute cette journée. Et pour cause, les militants et sympathisants de l'opposition ont bravé l'interdiction qui consiste à ne pas marcher un jour ouvrable imposée par le gouvernement togolais. Presque tous les quartiers de Lomé ont été secoués. Des face-à-face entre forces de l'ordre et manifestants ont été enregistrés dans le canton de Bay et dans les banlieues est et nord de la ville. Contre les gaz lacrymogènes, les manifestants ripostent avec des jets de pierre. Des personnes en tenue civile ont été aperçues dans certains quartiers de Lomé avec des fusils de gaz lacrymogènes en main. Pour les leaders de l'opposition, il s'agit des miliciens à la solde du pouvoir. Des milices ont été préparées et qui sont à l'œuvre avec le soutien des forces de sécurité, a affirmé Brigitte Adjamagbo-Johnson de la coalition des 14 partis de l'opposition. À ce côté, la ville est sous siège. Les militaires et forces de l'ordre la quadrillent et dispersent tout attroupement. En début d'après-midi, Sokodé sera silencieuse comme un cimetière. D'après des témoignages recueillis sur place, tous les habitants se sont terrés chez eux. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Dans le sud du Nigeria, 4 missionnaires britanniques ont été enlevés par des rebelles présumés près de la ville pétrolière de Wari. Un prêtre italien, Maurizio Palou, enlevé la semaine dernière dans la même région, a raconté aujourd'hui sa libération à Radio Vatican et indiqué qu'il aimerait rester dans le pays. La Cour pénale internationale a intensifié ses enquêtes sur les responsables des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, quel que soit leur statut ou appartenance politique, a affirmé la procureure Fatou Bensouda au journal Fraternité Matin. Mon bureau, en toute indépendance et impartialité, s'emploiera à faire traduire en justice les principaux responsables des violences post-électorales, a déclaré Madame Bensouda, précisant, sans citer de nom, que ces enquêtes sont menées en toute discrétion et confidentialité. Des violences ont éclaté ce mercredi dans le sud-est de la Centrafrique et auraient coûté la vie à de nombreux civils entre Alindao et Bangassou, selon des sources de l'ONU. À Pombolo, il y aurait eu des violences d'une grande ampleur, selon Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, précisant que la mission a envoyé un hélicoptère ainsi que des troupes depuis Bangassou. Pour le moment, il n'y a aucun bilan sur le nombre de victimes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande de renforcer la mission de paix en Centrafrique de 900 casques bleus en raison d'un nouveau cycle de violence. Dans un rapport au Conseil de sécurité, au moins 133 civils ont été tués par des groupes armés entre novembre 2016 et février 2017, selon la MINUSCA. Affrontement entre l'armée congolaise et des rebelles ADF dans l'est de la RDC, selon les autorités congolaises. Ces combats ont lieu à Kamango, a déclaré le capitaine Mac Azukai, porte-parole de l'armée, dans le territoire de Beni, au nord Kivu. La justice reste infectée par plusieurs maux, a déclaré ce mercredi à Kinshasa le ministre de la Justice congolais Alexis Tambwe Mwamba devant le Conseil supérieur de la magistrature. De nombreuses personnes sont détenues depuis de longues années sans régularisation de leur détention et sans être non plus présentées aux juges, a-t-il déclaré. Le ministre cite notamment la lenteur dans la distribution de la justice alors que les délais des prononcés sont rarement respectés. La police ougandaise a interdit les manifestations contre un projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. Un projet qui permettrait à Yoweri Museveni, 73 ans, de briguer un sixième mandat en 2021. John Lyndon.
Les autorités ougandaises interdisent régulièrement les manifestations de l'opposition et la plupart sont considérées comme illégales. Hier soir, la police a tiré du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc contre des centaines de partisans de l'opposition à Kampala. La dirigeante de l'opposition au Parlement, Winnie Kiza, a déclaré que cette décision était inconstitutionnelle et qu'elle allait la contester par tous les moyens. Fin septembre, le Parlement a adopté une motion autorisant un député du parti au pouvoir à présenter un projet de loi visant à amender la Constitution pour supprimer la limite d'âge de 75 ans pour être élu président. Le président Museveni, 73 ans et au pouvoir depuis 1986, n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2005, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à deux mandats présidentiels, lui permettant ainsi de briguer ses troisième, quatrième et cinquième mandats. Si cet amendement passe, Yoweri Museveni pourrait ainsi briguer un sixième mandat en 2021.
Le président de la commission électorale du Kenya a reconnu qu'il serait difficile de garantir une élection libre et équitable lors du scrutin prévu le 26 octobre. Il a par ailleurs dénoncé les interférences politiques. Jacques Aristide.
Je donne un carton jaune à tous les dirigeants politiques du pays. Ce sont les mots du patron de la commission électorale kényane, Wafula Chebukati, exhortant les politiciens de tous bords à cesser toute tentative d'interférer avec le processus. Il a également déclaré que la commission est minée par des dissensions internes qui ont sapé son autorité et l'ont empêché de garantir son bon fonctionnement. Il a dit avoir poussé pour des changements majeurs, mais que toutes ses propositions ont été rejetées par une majorité de commissaires. Se refusant à démissionner après la validation par la Cour suprême des résultats de la présidentielle du 8 août, M. Chebukati a proposé au président Uhuru Kenyatta et au leader de l'opposition Raila Odinga, qui a exclu de participer au scrutin du 26 octobre, de se rencontrer en sa présence pour discuter. Par ailleurs, l'une des huit membres de la commission électorale, Roselyne Akombe, a jeté l'éponge, elle a fui son pays et s'est réfugiée à New York après avoir subi des menaces. Dans un communiqué, elle estime que l'élection présidentielle au Kenya est une parodie de démocratie.
12 homosexuels présumés ont été arrêtés dans un hôtel de Dar es Salaam, a annoncé la police. 20 personnes accusées d'homosexualité avaient été arrêtées en septembre dans un hôtel de Zanzibar. L'homosexualité est illégale dans 38 pays d'Afrique et est passible de la peine de mort en Mauritanie, au Soudan et en Somalie. Le nouvel envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, pour la première fois dans la région depuis sa nomination, s'est dit déterminé à résoudre la question sahraoui lors d'une visite dans des camps de réfugiés en Algérie. Nommé en août, M. Köhler a entamé sa tournée lundi au Maroc, qui contrôle depuis 1975 une grande partie de cette ex-colonie espagnole.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un juge fédéral de l'État américain du Maryland a suspendu l'application de la troisième version du décret du président Donald Trump en matière d'immigration. Un jugement similaire a été pris hier par un magistrat de Hawaï, Solange Niamoulisa.
La décision du juge Theodore Chuang devrait faire l'objet d'un appel rapide du gouvernement. Le décret du président Trump interdit l'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays et devrait entrer en vigueur ce mercredi. Le juge Chuang a interdit de bloquer l'entrée d'étrangers qui ont une relation valable avec une personne ou une entité aux États-Unis. Dans un communiqué, peu après la décision hier du juge Derrick Watson de Hawaï, la Maison-Blanche a estimé que cet ordre est porteur d'erreurs dangereuses et sape les efforts du président pour assurer la sécurité du peuple américain. Ses détracteurs lui reprochent de cibler sans raison et de façon discriminatoire des millions de musulmans. Le président américain a signé le 25 septembre ce décret interdisant l'entrée aux États-Unis des ressortissants du Tchad, de la Libye, de la Somalie, du Yémen, de la Syrie, de l'Iran, de la Corée du Nord et également des responsables vénézuéliens.
Des combattants syriens ratissent la ville dévastée de Raqqa et demandent aux civils de ne pas y retourner dans l'immédiat au lendemain de la prise du principal fief du groupe État islamique en Syrie. L'alliance de combattants arabes et kurdes appuyée par Washington recherche encore des djihadistes cachés dans les tunnels ou des immeubles. L'armée irakienne entend se déployer dans tout le pays après avoir repris en 48 heures toutes les zones dont les combattants kurdes s'étaient emparés progressivement depuis 2003. Après ce revers pour les autorités du Kurdistan, c'est dans un climat de crise que se réunit à Erbil le parlement de la région autonome. La question de la succession du président Massoud Barzani devrait être débattue. Le Parlement français a définitivement adopté un projet de loi antiterroriste qui facilite les perquisitions et les fermetures de lieux de culte. Transposant dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence en vigueur depuis les attentats de Paris du 13 novembre 2015, le texte a été adopté à une large majorité par les sénateurs. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Blanche Sanou.
Le président Alassane Ouattara effectue une visite officielle au Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé un accord de partenariat stratégique et 3 mémorandums d'entente dans le domaine industriel, l'éradication de la pollution issue des activités illicites d'orpaillage dans le bassin des fleuves Bia et Tanoé entre les deux pays et sur la collaboration dans les domaines de la géologie et des ressources minières. Les deux parties se sont engagées dans le respect et la mise en œuvre effective de l'accord. En Guinée équatoriale, le gouvernement a annoncé la signature de plusieurs contrats pétroliers avec des entreprises étrangères depuis mi-octobre. Ces nouveaux contrats sont pour l'exploration et la production pétrolière. Ce pays d'Afrique centrale de près d'un million d'habitants subit encore les conséquences de la chute des prix du baril en 2014. Avec une production de près de 250 000 barils par jour en 2015, le pays est devenu officiellement membre de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. 60% du nouveau capital du Commonwealth Development Group sera investi en Afrique de l'Ouest dans les 5 prochaines années. Ce financement d'un montant de 2600 milliards de francs CFA sera utilisé dans les secteurs comme le bâtiment, travaux publics, l'agriculture et l'énergie, selon les explications de Marc Pey, représentant CDC Group au cours d'un point de presse à Dakar.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Coupe du monde des moins de 17 ans, le Mali et le Ghana en quart de finale.
Oui, ce mercredi, le choc africain entre le Ghana et le Niger a tourné à l'avantage des Ghanéens. Victoire 2-0, les doubles champions du monde de la catégorie, les Black Starlets, étaient favoris et la logique a donc été respectée. C'est sûr, il y aura une équipe africaine en demi-finale de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans, puisque le Ghana va affronter le Mali en quart de finale pour un nouveau duel 100% africain. Dans l'autre rencontre du jour, le Brésil s'impose 3-0 face au Honduras et affrontera l'Allemagne en quart de finale.
Soirée de Ligue des Champions hier en Europe. Les résultats hier soir, le Real accroché.
Manchester City a remporté le choc du groupe F face à Naples, 2-1. Le Guinéen Amadou Diawara, buteur pour Naples. Le Real Madrid a concédé le match nul à Santiago Bernabéu face à Tottenham, 1-0, mais reste en tête de son groupe à égalité de points avec les Spurs. De son côté, Dortmund a été accroché à Nicosie, 1-0. Le Shakhtar Donetsk qui s'impose 2-1 face à une vaillante équipe du Feyenoord de Rotterdam. Et puis les Monégasques ont été renversés au Stade Louis II par Besiktas, une défaite 2-1. Liverpool a pris la tête du groupe E en battant largement Maribor 7-0. Tandis que le Spartak Moscou a été étonnant face à Séville, une victoire 5-1. Après une première période folle avec 5 buts, Leipzig a décroché le premier succès de son histoire en Ligue des Champions en battant Porto 3-2.
La NBA, le champion en titre qui chute d'entrée.
Le champion NBA en titre Golden State qui s'est fait surprendre à domicile par Houston 122-121 pour le coup d'envoi de la nouvelle saison. Victoire de Cleveland sur Boston 102-99, mais ce match a été marqué par la terrible blessure de Gordon Hayward qui disputait son premier match sous le maillot des Celtics.
Merci Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Tension hier à Sokodé, au Togo, entre forces de l'ordre et manifestants, suite à l'interpellation de l'imam Alpha Hassan. Ces manifestations ont fait 2 morts côté militaire et 1 civil tué. Quelle est l'atmosphère à Sokodé aujourd'hui et qu'en est-il de l'imam Alpha Hassan arrêté ? Yacouba Ouédraogo a joint Joachim Soko, journaliste à Radio Albarka.
Il n'a pas été libéré. La nuit, quand il a été enlevé, la nuit de lundi, ils ont pris la direction de Kara. Selon les proches de la famille, puisqu'il a été enlevé devant sa famille, il y a son garçon qui a suivi un peu le cortège et ils ont pris la direction de Kara. Pour le moment, on n'a pas eu un écho de sa libération. D'ailleurs, même la coalition de l'opposition a demandé immédiatement sa libération.
Kara, c'est où?
Kara, c'est à quelques 70 à 80 km au nord de Sokodé, bien sûr, qui est le centre.
Comment est l'atmosphère à Sokodé aujourd'hui?
C'est la panique générale, la terreur. Chacun se cache à son chambre, évitant une certaine confrontation entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il y a les manifestants qui ont fait beaucoup de dégâts. Lundi à hier, mardi, les institutions d'État à l'effet de Togo Télécom, à l'effet de la Poste, les affaires sociales ont été saccagées, pillées, brûlées complètement. Les domaines privés également ont été saccagés, brûlés, à l'instar des kiosques qui se logeaient tout au long de la nationale numéro 1, les baraques des boutiques, des couturiers, des coiffeurs, etc. Tout est saccagé, tout voulait. Au beau matin, j'ai fait un tour à travers la ville, tout est inerte. Si vous attendez peut-être les voitures, ça serait les voitures des militaires, des policiers, etc. Et par moment, comme c'est sûr, la nationale numéro 1, ils essaient et quand même de protéger les voitures qui passent pour leur donner une issue favorable pour sortir vers Sokodé.
Et donc, les activités sont aux arrêts à Sokodé aujourd'hui?
Toute activité est aux arrêts.
Qu'est-ce qu'on reproche à l'imam Alpha Hassan?
Selon les proches ou bien selon nos investigations, ça veut dire que c'est le conseiller spirituel de Kiyas Adam, qui est le président de PNP, Parti National Panafricaine. C'est lui qui, selon les dit dans sa mosquée, a prêché, selon ce qu'on l'accuse, qui s'est prêché induit les actes de violence par rapport aux marches, la marche de l'opposition qui devait se tenir aujourd'hui et demain.
Est-ce que le président du PNP reconnaît que l'imam Alpha Hassan est son conseiller spirituel?
Bon, en fait, il est vrai de PNP. C'est pourquoi ils ont demandé sa libération immédiate quand ils ont appris que le gars a été arrêté.
C'était Joachim Soko de Radio Albarka à Sokodé, au Togo.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Somalie, meurtri comme jamais auparavant. L'attentat de samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire du pays. Les Américains se disent prêts à renforcer leur soutien militaire aux Somaliens. Mais pourquoi la Somalie est-elle toujours le théâtre d'attaques terroristes? La tragédie complique-t-elle davantage la tâche du président Mohamed Abdullahi Mohamed après ses 9 mois au pouvoir? La communauté internationale fait-elle assez pour sauver ce pays, surtout face au danger Shebab? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Direction Abidjan, où le musée des civilisations a fait peau neuve, l'un des musées d'art nègre les plus riches, selon les mots de Léopold Sédar Senghor, était fermé depuis 2 ans. Sa première exposition post-rénovation est baptisée Renaissance. Le musée avait été pillé en mars 2011 pendant la crise post-électorale. 120 œuvres ont disparu pour un montant de 4 milliards de francs CFA. Claire Morin-Gibourg a joint la directrice du musée, Sylvie Memelkassi.
La Renaissance, parce que le musée fait aujourd'hui face à plusieurs challenges. D'abord, le musée était fermé pour des travaux. Le musée, d'abord en 2011, avait été pillé, fermé pendant 2 ans. C'est un défi au niveau de la fréquentation parce que le public avait fini par croire que le musée était à jamais fermé. Et donc la Renaissance, c'est pour dire à tous les publics que le musée est ouvert. La Renaissance aussi parce que pour la première fois, on présente des œuvres que les populations n'ont pas vu jusque-là. Il y a beaucoup d'objets que nous n'avions pas présentés jusque-là. Les œuvres qui sont en exposition font partie de la liste des chefs-d'œuvre du musée. La Renaissance aussi parce que le musée a été relooké, parce que nous voulons nous mettre dorénavant dans les normes internationales. Donc nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que tous ceux qui viennent au musée se sentent fiers de se trouver dans un vrai espace culturel.
Alors c'est un musée qui est connu hein, dans toute la région puisque je vais citer les mots de l'ex-président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Il avait dit que c'était l'un des musées les plus riches du monde, en art africain oui. Bien sûr.
Effectivement, d'ailleurs il a lancé un appel pour dire que ces autorités ivoiriennes ont une responsabilité devant l'histoire parce que les Africains d'aujourd'hui comme ceux de demain pourront se reconnaître dans les collections du musée parce que ce musée parle de l'histoire de l'Afrique et donc c'est très important que les autorités prennent conscience de cela et donc mettent tout en œuvre pour que cette institution réponde aux attentes des divers publics.
Dans quelques mois, vous avez une exposition qui s'intitule « La collection fantôme ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
C'est donc un cri de ralliement à la cause du patrimoine qui doit être préservé. Et donc, la collection fantôme est là pour appeler aux uns et aux autres que le musée a connu un drame. Le phénomène du trafic illicite des biens culturels, c'est malheureusement une réalité. Nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé, parce que si on ne prend pas garde, ça risque encore de se répéter. Donc la collection fantôme, ça va être une exposition d'œuvres contemporaines des artistes aux côtés des œuvres ethnographiques du musée des civilisations, pour que les objets qui ne sont plus là puissent continuer de parler, parce que nous estimons que même si ces objets ne sont pas là aujourd'hui, ces objets sont quand même gravés dans notre mémoire et dans nos cœurs.
C'était Sylvie Memelkassi, directrice du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La RDC regorge de talentueux musiciens et la rumba congolaise est connue à travers des légendes comme Koffi Olomidé ou encore Feu Papa Wemba. Mais il y a aussi ces jeunes loups aux dents longues comme Karmapa, Jean-Jacques Kibinda, Pembele de son vrai nom. Abdourahmane Dia l'a rencontré lors d'un séjour à Kinshasa.
Si on appelle le prince de Rumba, je pense que c'est parce que Rochero, quand il était vivant, on lui avait posé une question une fois. On lui a demandé, mais Rochero, là, vous êtes vraiment à la fin de votre carrière. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Qui vraiment vous trouvez qui peut vous remplacer? Et Rochero, dans sa bouche, il avait cité Koffi, il avait cité Karmapa. Mais il a rajouté, je vois que Karmapa a mis la barre très haute. Depuis ces jours-là, on a commencé à m'appeler le prince de la rumba. J'écrivais des chansons et j'écris des chansons pour beaucoup de grands musiciens. Une fois j'ai rencontré Papa Wemba, il m'a dit, en tout cas Karmapa, t'es fort à mélodie. Et c'est là que j'ai pris conscience et j'ai commencé ma carrière. La carrière professionnelle en 2002, j'ai sorti mon album, mon premier album qui s'appelait « Je m'appelle toi ». L'album, une fois sorti, c'était une grande première au Congo, chez nous. Un artiste, un nouveau qui arrive, qui sort un album à la fin de l'année. Meilleur album, meilleur auteur-compositeur que j'étais, meilleure chanson, et puis j'étais la révélation de l'année. J'ai écrit une chanson qui était sortie même à la fin de l'année, comme d'habitude, chez nous. C'était sorti meilleure chanson de l'année. Et c'était la chanson « Messieurs les députés ». Là, je m'étais inspiré en fait, de ce qui se passe chez nous sur l'hémisphère politique. Je voulais tout simplement réveiller nos députés parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là pour le peuple. À partir de « Messieurs les millionnaires », je suis devenu un chanteur engagé, je dirais, oui. La musique congolaise, maintenant, c'est vrai que la rumba a un peu reculé, faute du management, faute de beaucoup de choses, quoi. Mais la musique congolaise reste, pour moi, la rumba reste la mère de toutes ces musiques qu'on écoute en ces moments en Afrique. La rumba, c'est un patrimoine national.
C'était le chanteur Karmapa à Kinshasa. Le président de la CAF estime légitime que l'Afrique organise le Mondial 2026. Dans une interview à VOA Afrique depuis Rabat, où il est en déplacement, le président de la Confédération africaine de football revient sur l'attribution du CHAN 2018 au Maroc, l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun et la prochaine attribution du Mondial 2026. On écoute Ahmad Ahmad, joint par Nicolas Pinault.
Vous savez, moi je suis président des 54 pays africains. Au moins, il y a un pays africain qui a la possibilité et le moyen d'accueillir une Coupe du Monde. Ça, c'est déjà une fierté à nous tous, nous Africains. L'Afrique, quoi qu'on dise, c'est parmi les quatre grands continents et parmi les deux très grandes en termes de nombre. On vit dans la démocratie. Et on n'a organisé qu'une seule fois la Coupe du Monde. Donc c'est tout à fait légitime si aujourd'hui l'Afrique réclame une deuxième organisation.
Le prochain grand rendez-vous, c'est la CAN 2019. Vous avez récemment apporté votre soutien au Cameroun qui organise cette compétition. C'est la fin de la polémique.
Moi, je n'ai jamais dit qu'on retire du Cameroun de l'organisation. À aucun moment. Je suis un président qui vient de succéder notre administration. Il y a certaines règles qu'il faut toujours respecter. Moi, par contre, on est intransigeant. La CAF actuelle, les dirigeants de la CAF actuelle, dont moi-même, est intransigeant sur le respect de cahier de charge. Et on a revu notre cahier de charge. Si le Cameroun est honoré pour ces compétitions, il répond favorablement à toutes les exigences, aucun souci, j'avais toujours dit. Moi, par contre, j'avais dit. Mais je le répète, au moment où j'avais dit que le Cameroun n'était pas pris. La preuve, c'est que le lendemain de ma déclaration, les autorités politiques ont signé le contrat avec certaines entreprises pour des infrastructures. Et quelques semaines après, le gouvernement a mis en place le comité d'organisation. Alors, en tant que premier responsable, le propriétaire de la Coupe d'Afrique des Nations, je n'ai pas droit d'être inquiet.
Donc vous estimez que vos propos ont été utiles au Cameroun ?
En tout cas, il y a un progrès, il y a une évolution de la préparation depuis mon intervention. Vous savez que aujourd'hui même, si vous demandez où est surtout la Côte d'Ivoire, le comité d'organisation a été mis en place depuis un certain moment. Voilà un pays qui est déjà en avance. Qu'est-ce que je peux dire c'est de les encourager. Donc, quoi qu'il en soit, c'était nécessaire en partie. Et je sais que beaucoup de Camerounais qui me connaissent ou qui ont la facilité de me contacter, m'ont remercié jusqu'à l'intervention.
À l'époque, votre prédécesseur Issa Ayatou avait critiqué vos propos. Cela vous a touché ?
Non, je laisse à vous de voir pour quelqu'un qui a dit qu'il va m'aider. Et voilà sa première contribution.
C'était Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football. Un entretien à retrouver sur voafrique.com.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée.